France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un après-midi sur France Culture en 1974, Sylvie Andreux relatait sa rencontre avec Hergé, puis l'interviewait, lequel Hergé avait été l'invité à la Sorbonne à Paris de Francis Lacassin, qui donnait des cours sur la bande dessinée. Retour sur l'album Tintin au pays des Soviets, qui venait d'être réédité. La Russie, dit Hergé, nous étions, rappelons-le, en 1974, la Russie a survécu à mes attaques. Retour aussi sur Tintin au Congo, sur la représentation caricaturale des personnages. Et puis sur l'intérêt des universitaires pour les aventures de Tintin, une belle émotion pour Hergé, cet ancien scout. Donc, les idées sur le colonialisme, sur le racisme, réactionnaire Tintin ? Bien sûr que non. Première diffusion dans les après-midi de France Culture de François Le Targa, le 22 mars 1974.
En janvier 29.
Le 10 janvier 1929.
Précision.
Pour être précis, c'était Tintin au pays des Soviets. Mais jusqu'à ce moment-là, vous n'aviez fait aucune étude de dessin.
Aucune.
Alors j'attire votre attention une fois de plus, enfin nous avons eu l'occasion de le vérifier souvent au cours de ce cours, c'est que la plupart des grands créateurs de la bande dessinée n'ont jamais fait la moindre étude de dessin. Ce qui tendrait à démontrer l'inutilité de certaines écoles. Mais enfin, n'allons pas jusque-là.
N'exagérons pas.
Sylvie Andreux, c'est donc un jeune homme de 45 ans, très exactement, qui vient d'entrer à la Sorbonne, un jeune homme qui a bercé nos joies d'enfant, qui continue d'ailleurs à faire la joie de notre époque où nous sommes moins enfantins, c'est Tintin.
Les propos que nous venons d'entendre ont été échangés entre Hergé, le dessinateur belge père de Tintin, et Francis Lacassin, écrivain, réalisateur de télévision et universitaire. Ils ont été enregistrés avant-hier au cours de Lacassin, consacré à la bande dessinée et donné dans le cadre très sérieux de l'Université de Paris. Invité du jour, donc, Hergé, suivi de très près de son héros de toujours, Tintin. C'est en 29, comme nous l'a rappelé Hergé, que Tintin est né. Et c'est en 29 que Hergé inventa son petit héros, reporter détective, jeune homme au cœur pur et droit, sans âge et sans visage, dans lequel allait essayer de se reconnaître toute une génération et même plusieurs générations de lecteurs. Je crois qu'il est utile de rappeler que plus de 40 millions d'albums de Tintin ont été vendus dans le monde et traduits en plus de 20 langues, dont le japonais. Il est extraordinaire surtout de penser que 40 ans plus tard, André Malraux allait recueillir de la bouche du général de Gaulle ce propos inouï. Au fond, mon seul rival international, c'est Tintin. Mais laissons ici les mots historiques et retrouvons-nous dans la grande salle du deuxième étage de l'Institut d'art et d'archéologie, où Hergé, devant un public attentif et surtout réjoui, donna sa définition de la bande dessinée.
C'est une, je dirais presque, le mot est peut-être un peu fort, mais enfin, un roman en images, donc avec la priorité donnée avant tout à la narration, je crois.
Et dans lequel il y a, quel rapport entre le texte et l'image, un équilibre
ou... Il est certain que la priorité en volume, en surface, est donnée au dessin, ça c'est certain, mais je crois qu'il faut un équilibre, il y a des dessins qui se défendent tout seuls parce qu'ils expriment exactement ce qu'ils expriment. Il y a d'autres dessins qui demandent un texte, qui demandent un dialogue, il y a des dialogues qui demandent à être illustrés. Tout cette affaire de dosage, je dirais.
Et vous êtes partisan personnellement d'une bande dessinée qui est assez proche de la nature ou totalement opposée à elle, totalement fantastique
Non. J'aime bien d'avoir les pieds par terre et pour moi j'aime bien qu'on croie à ce que je raconte. Et c'est pour ça que Tintin, qui est une caricature, et tous les personnages qui l'entourent, qui sont des caricatures également, sont malgré tout proches de la nature. Et que les personnages, en général, se meuvent dans un univers qui est le nôtre, qui est un peu transposé, bien sûr. Il faut des documents pour dessiner, je sais pas, une forêt vierge, par exemple. Mais c'est pas exactement, c'est pas photographique, c'est traduit, c'est transposer, quoi.
Et quelle est votre conception du graphisme ? Vous êtes pour un graphisme dépouillé ou au contraire détaillé ?
À la fois les deux. Je crois que la première chose à faire, enfin, je parle toujours pour moi, uniquement pour moi, d'autres seront d'un avis différent, mais je crois, pour moi, la première chose qui compte, c'est d'être immédiatement compris, c'est d'être lisible et clair. C'est-à-dire que le dessin soit dépouillé, qu'il ait un maximum, qu'il contienne un maximum d'informations, mais que d'autre part, il soit extrêmement clair. Donc, il faut trouver le juste point d'équilibre entre l'information et le dépouillement. Et puis, il faut aussi tenir compte du sens de la lecture et de la narration, de la clarté de la narration. C'est pour ça qu'en général, surtout maintenant, pas au début, où je n'avais même pas de fil conducteur. Maintenant, quand j'ai un fil conducteur autour duquel je peux broder, je peux m'en éloigner, je peux y revenir, mais je veux qu'à n'importe quel moment, le lecteur puisse savoir où il en est, qui est qui et que fait tel personnage en ce moment-ci.
J'ai observé, d'ailleurs je pense que tout le monde l'a fait, c'est qu'à plusieurs reprises, tous les 4 ou 5 ans à peu près, ou tous les 3 ou 4 albums, interviennent des personnages qui ont l'air de vouloir remplacer quelqu'un d'autre. Il y a eu les Dupont...
Qui n'ont pas été remplacés.
Non. Mais enfin, je veux dire, qui concurrence un peu le personnage principal. Si bien qu'aujourd'hui, on a l'impression dans les derniers albums que Tintin, qui occupait la vedette à lui tout seul, oui. La partage. Il est très concurrencé par le capitaine Haddock.
Oui, oui.
Mais même avec Tournesol, etc. Et avec la Castafiore
aussi. Oui. Mais je ne voudrais pas commencer à faire de l'introspection à mes dépens et de la psychanalyse, mais je crois que tout ça. Ce sont des facettes de l'auteur, enfin, qui se projette à différents échelons.
Madame Bovary, c'est vous.
Madame Bovary, c'est moi. Le professeur Tournesol, c'est moi. Les deux Dupont, c'est moi aussi. Enfin, très souvent, plus souvent qu'à mon tour, je me sens balourd. Hein? C'est pas dans l'Alexandrin. Hein? Mais c'est vrai, Tournesol aussi. On dirait vraiment qu'on se projette comme ça dans différents personnages. Il y a des caricatures, il y a... Et puis, il y a soi-même c'est inévitable. Dès qu'on fait quelque chose qui part de soi, on se projette là-dedans. C'est inévitable.
Et parlons un petit peu, si vous voulez, alors de l'esprit de votre œuvre. Il y a des gens, par exemple, qui vous ont fait toutes sortes de procès d'intention. Au fond, c'est la bonne tribune pour y répondre. On vous a accusé en particulier d'être misogyne.
Mais non, c'est un malentendu total. mais seulement... Les histoires de Tintin, les personnages des histoires de Tintin sont tous des caricatures, à commencer par Tintin, de véritables caricatures. Alors si je mets une jolie femme dans une histoire, ben c'est plus une jolie femme, elle devient une caricature. Donc c'est pas de la misogynie, c'est simplement que c'est un ensemble caricatural.
On a reproché aussi votre morale. On a dit que Tintin avait une morale de Boy Scout. Alors, je voudrais d'abord savoir si c'est vrai. Et si ensuite, vous estimez qu'il doit y avoir une morale dans une bande dessinée.
Mais écoutez, j'ai été scout pendant très très longtemps. Et j'ai donc joué les jeux scout et donné la parole de scout, etc., etc. Jeux basés toujours sur la loyauté, l'amitié, la fidélité, etc. Si c'est ça être scout, eh bien je le suis encore, j'espère enfin l'être encore, ce n'est pas tellement mal. D'autre part, et donc Tintin a une mentalité un peu comme ça, il va au secours du faible et de l'opprimé, de la veuve et de l'orphelin, bien sûr.
Ça, je crois que c'est le propre de tout héros.
C'est
de
le
bande
propre
dessinée.
De tout héros de bande dessinée, de tout héros tout court.
Oui.
Hein? Et en ce qui concerne morale, non, je ne suis pas du tout moraliste. S'il y a une morale, je ne dis pas qu'elle est à mon corps défendant. Mais c'est qu'elle est née comme ça, mais je ne l'ai pas voulu. Ce n'est pas vraiment avec l'idée « je vais faire de la morale ». Elle n'a que faire, là, la morale. Moi, je ne désire qu'une chose, c'est raconter une histoire amusante.
Alors, que pensez-vous donc du rôle de la bande dessinée? Un rôle distractif, même si elle a un arrière-plan culturel. Oui. Est-ce que vous croyez que la bande dessinée est purement une distraction ou, au contraire, un témoignage, qu'elle porte témoignage de son temps?
Elle porte certainement témoignage de son temps. Si c'est fait par quelqu'un qui croit à ce qu'il fait, c'est certainement un témoignage, elle porte certainement témoignage de son temps, puisqu'elle naît dans un contexte, l'auteur lui-même baigne dans un contexte politique, social, tout ce qu'on veut, économique, qui fait que c'est un témoignage. Et d'autre part, le fait pour moi d'avoir fait ça, je pense de moi, à moi maintenant, pendant plus de 40 ans, avec, et dans des époques très différentes, représente forcément des témoignages successifs d'époques différentes. Enfin.
Oui, alors justement, de ce point de vue-là, il y a des gens qui ne manqueront pas de vous dire que Tintin chez les Soviets ou Tintin au Congo portent témoignage d'une époque colonialiste, oui, etc. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre position sur tous ces grands problèmes d'aujourd'hui, sur le colonialisme, le racisme? Est-ce que vous pensez que la société est bien organisée? Est-ce que la vie doit continuer comme elle est actuellement, etc.?
La société, je crois, est perfectible, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais j'ai été, pour Tintin au pays des Soviets, c'était fait en 1929. C'était pas tellement la révolution d'octobre 17, c'était 12 ans avant, c'est pas énorme. C'est pas énorme, 12 ans. Et on était encore sous le coup de l'émotion provoquée par la révolution elle-même, par les massacres qui s'en étaient suivis, par les luttes, la guerre civile qui s'en était suivie aussi. Et je venais de lire d'ailleurs à ce moment-là un bouquin qui s'appelait « Moscou sans voile », qui avait été écrit par un consul belge à Rostov-sur-le-Don et qui décrivait, je crois de bonne foi, la pagaille dans laquelle il avait laissé le pays. Et je crois qu'il y a eu effectivement des massacres, toutes sortes de choses atroces. Une révolution, ça ne se fait pas avec des enfants de cœur, c'est toujours terrible. La révolution chinoise se fait, avec, d'après les chiffres de Perfit, il y a 50 millions de morts, enfin c'est tout simple. Mais il faut aussi dire que j'étais dans un milieu, un climat tout à fait hostile. D'ailleurs, la plupart, presque l'Europe entière était presque anti-soviétique à l'époque. Vous disiez tout à l'heure, les porteurs de fonds russes en voulaient terriblement aux bolcheviques. Les catholiques, donc le XXe siècle, ont brisé les cloches, ont fermé les églises. C'était effroyable. Donc j'étais anti-soviétique. Pas parce que j'avais décidé de l'être, mais parce que c'était comme ça, enfin, c'était naturel.
Je dois dire que, à votre décharge, c'est que...
Je ne me défends pas, hein, c'est simplement, je sais comme ça, voilà.
Vous représentiez en quelque sorte l'inconscient collectif européen de l'époque.
Probablement.
Qui se faisait cette image de la Russie. Alors je donne un exemple, il faut se replacer dans cette époque et savoir l'image qu'on avait de la Russie en ce temps-là. Je prends l'exemple d'un grand journaliste de l'entre-deux-guerres, qui était Albert Londres, mm-hmm. Très grand journaliste, à une époque où la presse écrite avait une importance beaucoup plus grande. Et Albert Londres, rentrant de Russie, terminait ses articles par ces mots « La Russie en est à la troisième internationale, elle marche à quatre pattes, quand elle sera à la quatrième internationale, elle aboiera ». C'était la façon dont les Européens de l'époque, les Occidentaux de l'époque, voyaient la Russie.
Oui, oui.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous redessineriez cet album de la même façon?
Non, bien sûr que non. D'abord, les choses ont changé. D'abord, vous avez remarqué une chose, c'est que la Russie a survécu à mes attaques. C'est bien. C'est vrai. Hein? Et non, je ne ferai certainement plus la même chose. Je ne crois pas même que je ferai quelque chose d'analogue. Je ferai peut-être un coup de griffe en passant, mais rien de plus.
En fait, vous avez réédité cet album à votre corps défendant.
Non, pas exactement. Non, c'est parce que je n'ai pas voulu le rééditer aussi longtemps qu'il était question de le transformer comme les autres albums et de le faire entrer dans une collection, la collection des autres albums. Dès qu'il a été question d'en faire un album à part, tout à fait à part, je dirais entre guillemets historique, alors je n'ai plus aucune raison de m'y opposer. C'est pour ça qu'il est sorti comme ça. C'était comme ça, je l'accepte, j'ai aucune raison de... ni d'en rougir, je trouve que c'est très mal dessiné, c'est très mal pensé, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est là.
Oui,
c'est comme ça. J'assume.
Sylvie André, j'imagine bien entendu que vous avez rencontré également l'auteur. Alors, cette entrée en Sorbonne l'avait affecté dans quel sens?
Il était très ému, c'est sûr, un peu fatigué de son voyage, très ému.
Et... c'est pas loin, Bruxelles, Paris, pourtant.
Non, c'est pas loin, mais il est plutôt jeune. Il a une jeunesse formidable, mais il était très étonné, surtout de l'intérêt et de l'attention que de futurs professeurs, que des étudiants ou des universitaires déjà consacrés peuvent prêtée aux faits et aux gestes de son héros. Parce que lui, comme il l'a expliqué, la bande dessinée est une chose récréative. Il dessine des histoires qui sont lisibles au premier degré et qui sont faites pour distraire et pour égayer les jeunes lecteurs. Alors il était donc à la fois ému, très étonné de l'intérêt qu'on lui porte. Et moi, je voulais savoir, bien sûr, quel était l'enseignement personnel qu'il avait pu tirer d'un cours universitaire consacré à Tintin, et je lui ai demandé s'il était ému de l'entrée en Sorbonne de Tintin.
Ça fait quelque chose, enfin, je suis vraiment touché par ça. Voir le chemin parcouru, depuis 1929, où la bande dessinée n'existait pratiquement pas, en Europe tout au moins, et ici où elle est entrée maintenant dans les mœurs, et où on enseigne.
Où elle entre à la faculté.
Elle entre à la faculté, réellement.
Donc, près de 50 ans après Tintin au pays des
Soviets. Il faut toujours 50 ans, à peu près.
C'est une espèce de consécration.
Oui, c'est vrai, c'est exact, incontestablement.
Quel enseignement personnel est-ce que vous tirez de cet exposé à la fois de Lacassin et de l'exposé critique et de l'élève qui a suivi celui de Lacassin?
Ce qui me frappe surtout là-dedans, c'est l'attention avec laquelle des lecteurs actuels ou anciens, comme Lacassin ancien et des tout jeunes maintenant, l'attention qu'ils accordent à toutes ces choses et où ils analysent des dessins, des textes, des dialogues que j'ai fait, des mises en page, etc. Alors que j'ai fait ça, moi, vraiment instinctivement, sans me poser de questions. D'ailleurs, je crois que ça n'a pas d'importance, d'ailleurs. Je crois que pour un peintre ou pour un écrivain, c'est la même chose.
La dissection du personnage de Tintin,
vous
surprend.
Me surprend parce que il est certain que quand j'ai fait ce travail et quand je continue à le faire, je ne pense pas à toutes ces facettes, à toutes ces possibilités d'analyse. Je me dis, il doit courir dans tel sens et il court dans tel sens. Ou il dit telle chose et il dit telle chose. Je ne me rends pas compte que ça provient, moi, de mécanismes inconscients de ma part, n'est-ce pas ? Mais quelqu'un d'autre peut l'analyser. Ça ne veut pas dire que l'analyse est mauvaise pour ça.
J'ai cru lire et comprendre dans le commentaire de Lacassin, illustré par des diapositives, un reproche très gentiment raconté, très gentiment exposé sur les deux périodes, l'espèce de rupture qu'il y a dans votre création.
Il y a incontestablement une rupture, et ça, c'est techniquement qu'elle a été rendue nécessaire, puisque à un moment donné, je suis passé du noir et blanc qui détermine une certaine façon de procéder à la couleur, qui est une autre façon. Or, comme à partir de 40 à peu près, donc, les albums allaient devenir en couleur, allaient être tous en couleur, j'ai voulu unifier la chose et je les ai donc tous remodelés, reprojetés sur ce modèle de la couleur.
Pour les gens qui nous écoutent, je voudrais rappeler que le reproche essentiel de Lacassin, c'est d'avoir réalisé que vous avez abandonné l'illogique, le burlesque, le comique dans votre graphisme pour adhérer ensuite à une école plus réaliste dans le dessin qui lui paraît plus monotone et plus ennuyeuse.
Mais pour moi, évidemment, je ne sais pas si j'y ai réussi. Pour moi, donc, la première époque, c'est noir et blanc, c'était un peu Max et Net, avec des gags gros comme des câbles, n'est-ce pas ? C'était... Après ça, Charlot lui-même, issu, n'est-ce pas, des Max et Net comédies, et Harry Langdon ont procédé à un comique beaucoup plus subtil, beaucoup plus élaboré, beaucoup moins mécanique, beaucoup moins burlesque aussi, beaucoup moins nonsense que les Max et Net. Et c'est un peu cette évolution-là que j'ai suivie. On peut le regretter. En fait, pour moi, je crois que c'est mieux. Mais en fait, c'est une question tout à fait personnelle, ça.
Si on doit fouiller un peu le personnage de Tintin, on a dit qu'il était réactionnaire.
Non.
Ça n'est pas vrai.
Je ne crois pas, enfin, je ne le crois pas.
On a dit qu'il était raciste.
Mais non, bien sûr que non. Moi, je vous réponds par un oui, par un non, parce qu'on pourrait discuter longtemps à ce sujet. Mais enfin, Tintin a des amis de couleur, il a des amis dans tous les coins. Je parle dans les histoires. Et il m'est arrivé d'être raciste, parce que c'était le contexte à l'époque, mais que le mot lui-même n'avait jamais été prononcé à l'époque. On ne savait pas ce que c'était que le racisme. L'univers colonialiste, par exemple, vous en France, nous en Belgique, les Anglais, tout le monde avait des colonies, et ça paraissait tout à fait normal.
Il est paternaliste et libéral.
Paternaliste, non, je crois. Enfin, écoutez, c'est possible, moi je ne le vois pas comme ça.
Misogyne, vous vous en êtes défendu. Mais
non, misogyne sûrement pas. C'est-à-dire que s'il y a des femmes, ce sont des caricatures comme les hommes.
D'ailleurs, on ne sait pas si Tintin aime ou n'aime pas les femmes.
Ça ne s'est jamais, le problème ne s'est jamais posé.
On ne sait pas quel âge il a.
On ne sait pas quel âge il a.
Il ne boit pas.
Il est absolument sans défaut. C'est le héros parfait. Oui. C'est ça? Le héros impossible, puisque même son visage n'est pas un visage. C'est un masque. Je me demande si c'est pas ça une partie du succès de Tintin, c'est que chacun, je parle des garçons et des filles, peut s'identifier à Tintin par cette absence de physionomie réelle.
Vous croyez encore aujourd'hui, quelqu'un de 15 ans?
Mais j'en suis sûr. J'en suis sûr à la correspondance que je reçois. Mm-hmm. Et moins qu'avant, sans doute, mais certainement encore.
Est-ce que Tintin peut faillir dans un album prochain?
Peut-être, je n'en sais rien.
Tomber amoureux?
Ça, je ne crois pas. Et je ne crois pas.
Cette émission, signée Sylvie Andreu, a été diffusée pour la première fois dans les après-midi de France Culture de François Le Targa, le 22 mars 1974.
Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, les torneros peuvent s'entendre. Pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ces jours de fête, le cirque est plein du haut en bas. Les spectateurs perdent la tête, les spectateurs s'interpellent. Songe un combattant, qu'un œil noir te regarde.